Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Onde Femmes. Onde Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8. Et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue sur Rome Ménage, Onde Femmes, Radio Zone 93.8. En ce mercredi, eh bien, nous allons parler musique baroque. Nous allons être en compagnie de Chiara Banchini et Viviane Gönig. Nous allons parler legato, ce terme musical qui signifie liaison. Bref, tout un programme plein de très belles musiques à découvrir. En ce mercredi après-midi, nous vous rappelons que vous pouvez toujours nous appeler au 059 4 50 40 51 41. Je répète, 059 si vous appelez bien sûr depuis la Suisse voisine, 4 50 40 51 41. Et vous pouvez toujours nous soutenir en acquérant une carte d'auditrice ou d'auditeur, en faisant le même numéro de téléphone et en donnant votre nom, votre adresse, et nous vous envoyons en l'échange de 30 francs suisses ou 100 francs français la carte de soutien à nos émissions. Alors, bienvenue Chiara, Viviane, très enchantée que la pleine lune se joigne au remue-ménage.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Et effectivement, nous avions souhaité recevoir Chiara Banchini parce que Chiara, on la connaît depuis longtemps sur les ondes de remue-ménage ou d'ondes femmes en général. Et des nouveautés se passent. D'abord un concert le mardi 19 novembre, un nouveau journal, une nouvelle association. Plein de choses à nous raconter, Chiara. Alors, allons rendez-vous pour tout ça.
Alors effectivement, une actualité, c'est un concert le 19 novembre avec deux noms, Mozart et Moser. Alors deux époques, deux types de compositions. Pourquoi ce choix ?
Bon, alors il faut d'abord dire ce que je suis moi, je crois. Donc j'ai fait des études tout à fait conventionnelles au conservatoire. Donc je suis une violoniste entre guillemets normale. Et puis après, j'ai été voir plutôt du côté de la musique baroque qu'il y a 20 ans, prenait des aspects nouveaux parce qu'on essayait de la reproduire avec des instruments de l'époque, etc. On s'est fait à peu près détruire et massacrer par tous les critiques, par nos professeurs, par nos collègues. Et petit à petit, on est devenu à la mode. Donc finalement, ce moment-là a pris la place de l'autre. Je crois que c'est un peu acquis partout que c'est avec des instruments anciens si possible, avec une articulation ancienne qu'on doit jouer la musique ancienne. Et on est arrivé finalement à un mouvement où tout est dit, tout est fait. Et quand on est un musicien, qu'on a envie un peu de chercher ailleurs, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a des élèves qui reproduisent exactement ce qu'on leur a dit, ce qu'on a fait, donc il faut aller un peu chercher ailleurs. De l'autre côté, à Genève, par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Ensemble Contre-Champ, qui finalement... Ils ont été aussi résistants que nous au début, c'est-à-dire eux, ils se sont dit, on va faire la musique contemporaine, on est des musiciens du XXe siècle, c'est la musique de notre siècle, tant pis si les gens ne viennent pas, nous continuons à faire ça. Et alors, ils ont fait toutes les créations, c'est vraiment assez, très beau ce qu'ils ont fait, souvent très très bonne qualité, mais eux-mêmes me disaient, eh bien voilà, on a commencé il y a 20 ans avec des gens qui avaient 30 ans, enthousiastes, eh bien 20 ans après, on a toujours le même public, il y a 50 ans, les jeunes ne viennent pas et les publics sont complètement cloisonnés, etc. D'ailleurs, ce discours-là se fait un peu partout. Hein, si vous allez en Hollande ou enfin, dans les pays où la réflexion est un peu plus avancée, on trouve ça. À Bâle, par exemple, il y a des séries. Maintenant, on essaye de mélanger les différentes sortes de musique. Pourquoi ? Parce que les publics sont cloisonnés. On les a peut-être cloisonnés, nous, Mais il faut dire qu'ils aiment aussi beaucoup rester dans leurs petites habitudes. Donc, ceux qui se sont passionnés à la musique baroque ne vont qu'à la musique baroque, et ceux qui sont passionnés de la musique contemporaine ne vont qu'à la musique contemporaine. Et au milieu, on a toute une série de musiques, appelons-la romantique, du 19e siècle surtout, qui, elle, est produite surtout par les grands orchestres, par les grandes associations, les grands théâtres. Alors, cette partie-là, en fait, elle est aux mains quand même de la bourgeoisie la plus conformiste qu'on puisse trouver. Donc, le public des concerts de la Suisse romande est souvent un public très conformiste qui ne va que là, qui a peur de tout ce qui est en dehors. Les programmes de l'Orchestre de la Suisse romande font très peu de baroque parce qu'ils sont trop, donc c'est quand même aussi une question de quantité de musiciens. Le baroque et le contemporain se rejoignent sous la mobilité. Hein. On peut faire de 2 à 30 instruments. Un orchestre comme l'Orchestre de la Suisse romande, ils sont 120. Donc déjà, le répertoire est figé. Et ensuite, cet orchestre est aussi au théâtre, et le théâtre, de nouveau parlant du théâtre de Genève, mais je crois que c'est un peu partout, ne donne que des opéras qui sont tout à fait acquises aussi par le romantisme ou connues par le public. Ils ne s'aventurent pas, ou très peu, à faire de l'opéra ancien ou de l'opéra contemporain.
On reste très dans les standards.
Voilà. Donc, tout ça mis ensemble, nous, musiciens qui avons essayé avec la musique ancienne de faire des nouvelles choses, on se trouve cloisonnés à la mode, mais cloisonnés dans nos publics, et les contemporains aussi. Et en discutant, on s'est dit, il faut qu'on sorte de ces frontières-là. Et donc, sortir de là, ça veut dire quoi ? Aussi se démarquer un peu comme avant-garde, quoi, par rapport à toute une politique des associations, des grosses associations de la ville et de l'État, qui ont d'ailleurs la grande partie des subventions. Je n'ai pas les chiffres, mais je crois que les chiffres ont déjà été dits partout. Donc, il y a peut-être le 90% de toutes les subventions de l'État de la ville qui vont au théâtre et à l'orchestre, et le 10% qui est partagé par toutes les autres associations culturelles de l'État et de la ville. Voilà. Donc, tout ça, on sait. Mais l'autre problème était comment décloisonner nos publics, parce que finalement, on les habitue nous-mêmes. Donc voilà, tout ça, on s'est mis quelques associations ensemble pour essayer de parler à notre public en leur disant, écoutez, quand vous venez écouter 415, on va essayer de vous donner un petit peu de musique contemporaine, quand vous allez à la musique contemporaine, et vous allez aussi un peu ouvrir vos oreilles pour essayer de comprendre. Peut-être que vous aimeriez beaucoup, simplement, c'est que vous n'allez pas, vous dites à la musique contemporaine, horrible, j'y vais pas, ou bien la musique ancienne sur instrument ancien, quelle horreur, Bach avec les instruments anciens, jamais. Et puis finalement, il suffit un peu d'écouter et de connaître pour changer d'idée.
Donc de là est née cette association Legato, qui comprend 4 groupes, l'ensemble 415 que tu diriges, le centre international de percussion, l'orchestre de chambre de Genève et l'ensemble contre-champ. Mais non seulement, si j'ai bien compris, il y a cet essai de décloisonner, mais aussi de chercher, en tout cas dans vos programmes, des correspondances entre musiciens, ou en tout cas des échos entre musique ancienne et musique contemporaine.
Oui, ça c'est, si tu veux ça, on n'a pas encore assez bien fait, parce qu'on est arrivé dans cette association ayant déjà nos programmes faits, parce que comme on les fait 2 ans à l'avance, et que l'idée elle est née il y a 6 mois, donc pour cette année, on a mis en fait chacun ce qu'on avait de plus intéressant ou de mieux adapté à ce programme de Legato, et on a décidé de faire, en tout cas le concert d'ouverture tous ensemble, et ça je trouvais que c'était une très très belle idée. Donc on était tous là, les 4 associations, et on a passé d'un moment à l'autre. Donc il y a eu du Bach aux instruments anciens, à Webern aux instruments contemporains. C'était aussi un hommage à Webern surtout. C'est un immense concert fleuve qui a duré 5 heures avec je sais pas 80 personnes sur scène et 200 dans la salle. Et ça nous a beaucoup déçus d'un côté parce qu'on pensait qu'en fait le public était plus ouvert. Hein. On a eu effectivement une grande discussion ce matin. Il y a tous nos administrateurs qui comptent les sous, qui nous poussent par derrière en disant non mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous faites? Et puis nous on dit non, il faut le faire. Le public, il faut aussi attendre qu'il s'habitue.
Parce qu'en fait vous demandez un sacré effort au public justement, voilà. Pierre Hacan, avec une telle démarche.
Oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu vois le public qui est tout le temps la même chose, c'est ennuyeux aussi. Donc on se disait, peut-être qu'on va atteindre une frange de gens. Donc moi j'ai mon public assuré hein, à Genève, contre-champ aussi. Et je ne sais pas, l'OCG, l'orchestre de chambre aussi. Donc on se disait, peut-être il y a des gens, d'autres, des jeunes surtout, comme ça, qui seraient intéressés à la démarche, qui se disaient, tiens, je peux me faire un abonnement pas cher et puis aller une fois écouter la musique contemporaine, une fois écouter la musique baroque. C'est vrai que c'est un effort, mais en même temps je trouve que si c'est pas nous à le faire, ça ne marchera jamais et que peut-être petit à petit les gens vont s'habituer à faire un petit peu d'effort.
Mais pour en revenir par exemple justement au programme donc du 19 novembre, Mozart, si j'ai bien lu votre petit journal, parce qu'en même temps vous faites un petit journal et on en parlera aussi, Roland Mozart qui est un compositeur contemporain et parle aussi de Mozart dans sa musique.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a tout un mouvement des compositeurs contemporains qui écrivent pour des instruments anciens. Parce que, évidemment, par exemple, si on prend peut-être tout le monde comprend la différence quand même entre un clavecin et un piano, peut-être pas entre un violon baroque et un violon moderne, mais un clavecin, un piano, ça sonne très différent. Donc, pour un compositeur, d'écrire des sons pour un clavecin ou pour un piano, c'est très différent. Et il y a de plus en plus qui se passionnent pour des instruments aussi nouveaux. Hein. Par exemple, le flûtiste qui joue dans notre concert du 19 novembre jouera un flageolet, qui est un instrument qui était de l'époque de Mozart, mais qui a complètement disparu. Et il s'en est fait faire une copie par un facteur australien, d'ailleurs, qui est assez génial. Donc, il le joue pour la première fois. On a répété ensemble la semaine passée à Bâle et on a découvert que c'est un très, très bel instrument, mais que personne ne l'a jamais joué. Donc, par exemple, Roland Mozart, qui est ce compositeur dont on joue ses pièces, c'est un compositeur balois, lui est très intéressé à ce moment d'instruments anciens. Et ça lui plaît beaucoup d'imaginer, d'écrire pour cet instrument. Donc, il a écrit, par exemple, une paraphrase d'une sonate de Mozart pour violon baroque et fortepiano. Et là, on va faire les deux. On va faire la vraie sonate et la paraphrase de Roland Mozart. Il a écrit, justement, pour le flageolet, qui est un instrument, justement, qu'il a imaginé, finalement, mais qui n'est pas encore, qu'on n'a pas encore entendu. Et nous, de l'autre côté, on essaye de, par exemple, voilà encore une chose, il y a la Cathy Gaulle, qui est violoncelliste, qui joue avec 415, et qui est la femme de Roland, et qui est la dédicataire de deux des pièces qu'elle va jouer. Évidemment, là, c'était aussi, c'est vrai que on n'a pas été très loin dans le sens, moi je connaissais Roland, je connaissais Cathy, je connaissais les envies de Roland, de traiter les instruments anciens, donc on a travaillé ensemble
donc
sur ce programme.
Si je comprends bien, le décloisonnement, ce n'est pas seulement d'associer des programmes contemporains au baroque, mais même chez les compositeurs contemporains aussi, il y a cette envie de se décloisonner et d'utiliser entre autres des instruments anciens pour des compositions contemporaines.
Oui, là, par exemple, il y a une chose assez marrante. J'ai été jury au Festival de Bruges, qui est un festival de musique ancienne, où vraiment, c'est très cloisonné. Alors, c'est un public extraordinaire, mais alors, ils viennent tous pour écouter de l'Australie, je ne sais pas d'où, les instruments anciens. Et je suis revenue de Bruges avec 4 disques de musique contemporaine, de compositeurs qui étaient là, qui sont venus me voir, qui m'ont dit, mais écoutez, on m'a dit que vous vous intéressez. Voilà, écoutez mes œuvres, j'aimerais bien écrire une œuvre pour 415, ou pour violon baroque, vous me dites. Donc, il y a aussi cette approche-là, et ils viennent là, évidemment. Ça veut dire que ça les intéresse vraiment.
Alors, on reviendra sur ce thème du baroque et du contemporain, les liens, en tout cas au niveau des musiciens, qui sautent d'une époque à l'autre. Mais pour mieux peut-être comprendre la finesse du propos, je vous propose d'écouter un morceau interprété par l'ensemble 415.
toujours dans Rome Ménage, Jeune Femme, Radio Zone 93.8. Et aujourd'hui, nous recevons Chiara Banchini, qui est la responsable directrice de l'ensemble 415. Vous venez de l'entendre interpréter, Chiara, un morceau de Vivaldi, c'est ça?
Oui.
C'était Corelli, je crois.
Corelli. Mais c'est la musique baroque, ça va.
Et nous discutons avec Chiara de cette tentative magnifique qu'a entrepris à la fois l'ensemble 415, mais avec d'autres orchestres comme l'Orchestre de Chambre de Genève ou l'Ensemble de Contrechamps Musique Contemporaine ou le Centre International de Percussion, de se réunir afin de faire découvrir leurs musiques respectives ou d'échanger leurs approches musicales, si j'ai bien compris, pour décloisonner un petit peu les publics, ces gens qui, comme vous et moi, peut-être aimons un certain type de musique et nous donnons pas la peine d'aller voir un petit peu ce qu'il y a à côté ou ailleurs.
Mais une chose m'étonne, disons, c'est une question que j'ai depuis longtemps, c'est en fait le lien entre baroque et contemporain. Parce qu'une fois, il y a très longtemps, j'avais vu une émission sur une violoniste baroque, norvégienne, je crois, non, je ne me souviens plus le nom, je suis absolument désolée, mais qui disait aussi qu'elle passait du baroque au contemporain. Et je trouvais étonnant ce goût pour cette musique ancienne et cette musique contemporaine qui, quand on l'écoute, a l'air très différente. Alors, est-ce que c'est uniquement, parce que comme tu l'as dit, ce sont les deux des musiques marginales par rapport à l'establishment classique, ou est-ce qu'il y a vraiment des sonorités, des liens, des types de recherches qui se ressemblent?
Les deux. Donc, évidemment, comme je dis avant, il y a des musiciens qui ont envie de chercher plus loin que d'autres, donc ils s'adressent à des choses un peu nouvelles. Mais il y a aussi, donc d'abord, la structure. Si on pense à la musique romantique, au moment du romantisme, les compositeurs écrivaient pour des gros orchestres, des gros effectifs de 100 à 120 à 140 musiciens, avec des chanteurs qui ont des coffres énormes, qui peuvent chanter Wagner et remplir des théâtres. Alors que soit la musique baroque, disons même à partir du Moyen-Âge, finalement, on parle toujours de musique baroque, mais à partir du 400, 500, 600, 700. Et la musique contemporaine cherche, eux, dans les sonorités différentes, dans des phrasés différents de l'articulation. C'est difficile d'expliquer ce que c'est l'articulation, mais donc, par exemple, si je dis parler avec la musique, c'est peut-être plus clair. Donc, on n'imagine pas une chanteuse wagnérienne qui parle, alors que si on écoute, par exemple, le Fierro Lunaire de Schoenberg, prenons que c'est une œuvre en fait qui est devenue classique pour l'écoute, là, la chanteuse doit faire l'actrice, doit savoir parler, doit savoir chanter aussi, et les instruments aussi. Et donc, on retrouve la même recherche, là, une façon différente de traiter les instruments, ce n'est plus seulement crier au plus fort, mais c'est aussi dans le détail. Et puis, c'est dans le nombre d'instrumentistes. C'est-à-dire, là, on se rejoint assez. C'est rare qu'un compositeur... Il y a, bien sûr, des compositeurs contemporains qui écrivent pour orchestre, parce que les orchestres sont encore un outil tout à fait contemporain. Mais il y a beaucoup plus de musique de chambre, de ressemblage de différentes couleurs, différents instruments. Et voilà, par exemple, là, on se retrouve finalement avec contre-champ, avec des instrumentistes qui vont de 2 à 20, ce qui est à peu près aussi l'effectif de l'ensemble 415. Donc, c'est plus facile aussi de se retrouver là.
Tu parlais de la voix et je crois que maintenant, il y a vraiment un autre type de musicien, une autre génération de chanteurs et de chanteuses qui, effectivement, utilisent la voix moins, comment dirais-je, expressive que dans la musique romantique, plus comme un instrument.
Voilà, et on demande maintenant aux chanteurs de savoir parler, surtout de savoir se faire comprendre en chantant, ce qui était tout à fait typique du 18e, où le mot est la chose plus importante. Donc, si on écoute maintenant les compositions contemporaines, souvent, c'est, je ne sais pas, sur des poèmes, et le texte est très, très important et détaillé. C'est vrai. Mais aussi aux instrumentistes, on demande de savoir parler, d'être beaucoup plus subtil finalement dans des choses. Et c'est aussi difficile de concilier, je crois. C'est très difficile, par exemple, d'être un bon violoniste baroque et puis d'arriver toujours à jouer, je ne sais pas, les concertos de Tchaïkovski qui demandent vraiment un pathos, une force de vibrato et de sonorité qui sont vraiment typiques de l'époque romantique.
Mmh. Donc il y a à la fois cette musique marginale, mais musique aussi avec une ressemblance dans les sons et une ressemblance dans les structures des musiciens.
Oui.
Alors, dans votre démarche Les Gâteaux, vous faites aussi un journal. Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec ce journal ?
Bon, alors on s'est dit aussi souvent, on fait des concerts, mais on n'explique pas assez. Hein. Le public arrive, on leur donne un programme avec une série de compositeurs, éventuellement la date de naissance et voilà, quelques petits renseignements. Mais c'est rare de pouvoir demander au public aussi de faire une réflexion sur qu'est-ce que c'est la musique, qu'est-ce que c'est le musicien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en général dans le monde. Dans l'enseignement, et ça on peut peut-être y revenir parce que c'est très important, comment essayer d'éduquer au moins le public jeune d'aujourd'hui à écouter d'une façon différente. Et ça, ce journal-là, je pense qu'il a surtout ça comme rôle. Donc, on explique nos concerts, mais il y a aussi des articles de fond sur ce qu'on pense, sur comment on voit la musique. Il y a des interviews. Par exemple, évidemment, on ne peut pas faire un concert et puis distribuer au public. Si, on pourrait distribuer au public des interviews qu'on a fait aux compositeurs. Alors, bon, Contrechamp fait beaucoup des présentations de concerts. Alors, ils le font, par exemple, à 18h. Et ça, je pense qu'il y a une chose très importante. Nous, on a essayé, donc, par exemple, pour le premier concert qu'on a fait tous ensemble, on a fait le samedi matin une scolaire où il y avait des collégiens et on a demandé aux professeurs de musique, donc c'était plutôt des collégiens option musique ou bien qui sont au collège Voltaire, qui font l'artistique en musique. Et comme il y avait Webern sur des textes allemands très importants, les professeurs ont fait vraiment un travail fou. Donc les élèves sont arrivés, ils étaient préparés, ils savaient ce qu'on allait dire, ce qu'on allait chanter. Et moi j'étais étonnée de voir, il était presque plein le 8h, il y avait peut-être 500 ou 600 collégiens. Un samedi matin de 10h à midi, et ils étaient très très attentifs, très silencieux. Il y en a quelques-uns qui sont venus après en disant: ah mais écoutez, moi j'ai jamais entendu du violon baroque, mais alors je détestais le violon, mais comme ça je l'aime, par exemple. Et évidemment c'était l'occasion de le faire entendre, alors que sinon c'est difficile de les atteindre.
Une telle rencontre a été prise à votre initiative?
Oui, alors un des buts de Legato, c'est justement de présenter nos concerts dans des scolaires ou d'essayer d'expliquer aux jeunes. Donc c'est comme ça qu'on a fait cette scolaire. Il y en aura d'autres sur ces mêmes concerts. Et on pense que c'est vraiment un des buts de notre association, c'est de collaborer très très étroitement avec les professeurs de musique et les conservatoires si possible. Mais là, bon, le conservatoire, c'est un peu encore un autre.
Oui, on peut en venir puisqu'on parlait d'enseignement de la musique. Le conservatoire à Genève, tu en as parlé quand tu racontais un peu ta trajectoire, était très opposé au baroque. Je pense qu'il est aussi relativement réticent au contemporain. Quel lien vous pouvez avoir avec justement les futurs musiciens ?
Alors ici, je dois dire qu'à Genève, c'est pas très facile parce que le conservatoire continue un peu, en faisant des efforts par rapport à avant quand même, continue un peu à avoir des professeurs qui sont très, très conformistes dans le sens préparation, de toujours les mêmes programmes, pas de musique baroque avec instruments anciens, surtout pas très peu de musique contemporaine. Je dois dire par exemple à Bâle, moi j'enseigne à Bâle, et dans le conservatoire qui est dirigé d'ailleurs par un compositeur, il y a cette section de musique ancienne qui est devenue une vraie école, et donc les échanges sont beaucoup plus faciles et les élèves sont beaucoup plus ouverts. Donc moi j'ai des élèves du conservatoire qui viennent écouter, mes élèves vont écouter des leçons, et c'est aussi un moyen pour les élèves d'être ensemble et de s'écouter. À Genève, ils vont faire ça, ils vont ouvrir des classes d'instruments anciens maintenant au conservatoire, donc il y a peut-être ce débat qui va commencer à s'instaurer aussi à Genève. Pour l'instant, ce n'est pas encore commencé. Cette année, il y a quelques cours et ça s'élargira l'année prochaine. Donc, probablement, il y a quelque chose qui je pense qu'il va aussi se passer à Genève. Pour l'instant, c'est encore très cloisonné.
Mais les auditeurs et auditrices des concerts, ce n'est pas seulement des musiciens. Donc, effectivement, il faut trouver moyen de toucher les jeunes. Parce que tu parlais des jeunes, on sait bien qu'à propos de tout et n'importe quoi, ce n'est pas très évident de faire découvrir une autre histoire à des jeunes. Alors, l'école, c'est un moyen. Est-ce que vous avez imaginé d'autres façons ?
À part l'école,
tu veux dire ?
Non, parce que je pense que si on atteint déjà toute cette frange de les collégiens entre 14, 15 et 18 ans, dans le cadre de leur cours de musique, c'est déjà, je sais pas, pour Genève, c'est quand même le gros des jeunes, ils sont là. Bon, il y a par exemple à Mérin, au Forum de Mérin, ils ont aussi ouvert ça, ils font pour chaque concert, ils font des scolaires, je sais, pour toutes sortes de musiques, pour des plus petits, ils font des spectacles pour les plus petits, et il semble que c'est très, très, très plein aussi. Donc, il y a là un mouvement qui est important, et il y a beaucoup de réponses de la part des maîtres d'école. Ils amènent leurs enfants, et il semble que les enfants écoutent. Parce que souvent aussi, ce qui s'est passé, c'est que le cours de musique à l'intérieur de l'école n'est pas très apprécié par les élèves, donc ils se sentent un peu obligés, ou bien on leur impose de la musique alors qu'ils n'en ont pas tellement, c'est pas tellement dans leur intérêt. C'est un peu le cours où il n'y a pas des notes, où on sèche, où on fait des petits avions. Et donc c'est vrai que c'est important de convaincre les maîtres d'école ou les professeurs que c'est par eux que les élèves arriveront à écouter et à venir à prendre connaissance. Après, évidemment, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais là, j'étais vraiment étonnée de voir ce silence pendant 2 heures, et c'était un programme très, très difficile. Et c'était clairement parce qu'ils étaient bien préparés, ça c'est clair. Et moi, je dois dire que les professeurs, là, ils ont fait vraiment un très gros travail de préparation.
Et des spectateurs bien préparés, ça donnera, grâce aux articles de votre journal, ça donnera peut-être aussi des auditeurs un peu mieux, un peu plus attentifs.
Bon, là, on a eu un peu des échos, disons, des échos de gens qui disaient « oui, c'est très bien de se mettre tous ensemble, c'est une bonne idée ». Mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ont trouvé ce journal un peu trop hard. Ils nous ont dit « mais c'est un peu trop dur ». Donc, on a aussi discuté, peut-être, on était un peu trop loin avec nos discours sur la musique contemporaine. Et on va essayer de trouver un peu d'autres formules, peut-être plus accessibles à un public normal. C'est vrai que c'est difficile aussi de doser, de ne pas mettre trop de musique contemporaine. Là, ils nous ont dit qu'il y en avait trop, que c'était trop vers la musique contemporaine. Donc l'année prochaine, on va essayer de mieux équilibrer les programmes.